Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Le chanteur et cofondateur du groupe de rock britannique Supertramp, Rick Davies, est décédé samedi dernier à l'âge de 81 ans, après 10 ans de lutte contre la maladie. Son solo introductif à l'harmonica du titre School fait partie de l'histoire du rock, tout comme ses parties de piano, les critiques et réflexions sociales de ses textes et son chant soul et rock. Côté de Roger Hodgson, avec qui il avait fondé Supertramp en 1969. Portrait de ce génie musical avec François Vantôme.
Né le 22 juillet 1944 à Swindon, dans l'Angleterre ouvrière, Rick Davies a grandi avec la musique comme refuge et comme horizon. Autodidacte, il a commencé par le piano et clavier avant que sa curiosité ne l'amène à explorer les sonorités blues et jazz qui allaient nourrir son écriture. Dans les années 60, il fait ses armes dans des formations locales, enchaînant les expériences qui allaient forger son instinct d'arrangeur et de compositeur. La route est longue et semée d'embûches. Après la mort de son père, il trouve un emploi de soudeur et en 1966 devient l'organiste de The Lonely Ones, qui deviendra The Jaunt. Aidé par le milliardaire néerlandais Stanley August Meisegas, il passe une annonce dans le magazine musical Melody Maker en août 69, pour fonder son groupe. C'est de cette manière qu'il rencontre son alter ego, Roger Hodgson. Initialement baptisé Daddy, la formation prend le nom de Supertramp, nom suggéré par le guitariste du groupe, Richard Palmer.
C'est donc au cœur de Londres, hein, en 1969, que naît Supertramp, qui restera à jamais comme unique. Chacun apporte une touche spécifique au groupe.
En effet, c'est à Londres, Davies et Hodgson forment le duo qui deviendra le socle du groupe, avec une section rythmique solide et des arrangements méticuleux. On peut dire que toute la biographie de Supertramp est en grande partie celle de Davies. La voix posée et la présence discrète, le sens du détail qui fait d'un morceau une expérience, et son goût pour le contraste entre gravité et humour. Si Hodgson, lui, apportait la clarté rêveuse et les mélodies au perché, Davies offrait le poids terre-à-terre du groove et une écriture qui osait parfois la pointe d'ironie, l'ombre qui rend la lumière plus lumineuse. Au centre de leur musique se trouve le Wurlitzer, cet instrument qui, chez Davies, ne sonnait jamais comme un simple clavier. Il donnait à leur titre une couleur métallique et vive, une nervosité qui faisait tout le sel de Bloody Well Right et de The Logical Song. Cette attaque sonore, loin d'être ostentatoire, certissait les compositions d'un caractère insolent et d'une énergie communicative. L'alchimie Davies-Hodgson était palpable sur scène comme à l'enregistrement. Deux talents complémentaires, deux voix qui dialoguent, deux timbres qui racontent une même histoire sous des angles différents.
Le succès arrive alors très très rapidement.
Crime of the Century, en 74, confirme que Supertramp est bien plus qu'un phénomène de curiosité. C'est une machine à tube capable d'allier complexité musicale et accessibilité commerciale. Puis, Breakfast in America, en 79, propulse le groupe au rang de phénomène international. Ces années-là font de Davis le pilier du groupe. Il assure la continuité musicale lorsque les tendances changent et que le paysage rock évolue autour de lui. Mais Davis n'était pas du genre à cultiver les feux de la scène ou les feux de la hype. Il préférait l'efficacité silencieuse, la précision des notes et la manière dont chaque instrument trouve sa place dans le puzzle.
Et en 1983, la rupture survient.
Eh oui, Hodgson quitte Supertramp. Cela ouvre une période de transition difficile pour Davis et pour le groupe. Malgré l'épreuve, Davis répond par la ténacité. Il poursuit l'aventure sous le nom de Supertramp, préservant l'identité musicale et veillant à ce que l'esprit initial ne se perde pas. Le groupe se dissolve en 1988, puis se reforme en 1996 et alterne ensuite période de tournée et de pause jusqu'en 2012.
La vie personnelle de Davis a aussi été marquée par une épreuve majeure.
En 2015, il annonce souffrir d'un myélome multiple, cancer de la moelle osseuse. Il résiste pendant plus d'une décennie, poursuivant des projets musicaux dans l'ombre. Puis, malheureusement, le 6 septembre 2025, le monde perd l'homme derrière le clavier à Long Island, à l'âge de 81 ans. Son départ laisse un vide certain, mais aussi une empreinte indélébile, celle d'un son qui a su rester personnel, sans jamais s'installer dans l'ego ou la démonstration. L'héritage de Rick Davis est double. D'une part, une discographie qui a redéfini le son du rock progressif mélodique, et d'autre part, une influence durable sur les clavettistes et les compositeurs qui ont puisé dans son approche du clavier, en particulier l'emploi avant-gardiste et percutant du Wurlitzer comme instrument lead. Des artistes comme Jamiroquai, Muse ont intégré dans leur propre univers cette logique du clavier comme voix principale, héritage direct de Davis et de Supertramp. Goodbye Stranger, The Logical Song, Bloody Well Right, les titres qui demeurent des repères autant qu'il reste des révélations pour ceux qui les redécouvrent aujourd'hui.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Elle m'appelle à son chevet un soir de septembre. Ça fait longtemps qu'elle attend de quitter cette vie au ralenti.
C'est
Mzaza avec The Birth and Death of Stars. Mzaza qui sera bien entendu à Melbourne. Vous le savez peut-être si vous avez écouté notre émission d'hier. Mzaza à Melbourne du 1er au 5 octobre pour le Melbourne Fringe Festival. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives. Eric Orsena, bonjour, c'est un vrai plaisir de vous avoir dans le programme en français ici à la radio SBS. Vous êtes en Australie pour parler de l'eau. Pourquoi c'est si important que ça, l'eau ?
Eh bien, je ne suis pas là pour parler de l'eau, je suis là pour entendre l'eau, pour entendre qu'on me parle de l'eau et pour qu'on m'explique comment est-ce qu'on fait quand on est un pays si sec et quand on est un pays qui a tant besoin d'eau, puisque les richesses de l'Australie principales sont des richesses agricoles et minières, deux activités qui, plus que toutes les autres, ont besoin d'eau. Donc, face à cette rareté, comment fait l'Australie ? Donc, j'étais venu il y a 6 ans pour déjà entendre parler les Australiens de leur lutte pour l'eau, et je voulais voir, 6 ans après, qu'est-ce qui avait évolué.
Et donc ?
Eh bien, c'est de plus en plus intelligent. Parce qu'on se rend compte que toutes les solutions techniques existent, sont connues, et que c'est pas là-dessus que ça se joue. Ça se joue dans les questions de partage, dans les questions de solidarité, dans les questions de ne pas sacrifier le long terme à toujours l'urgence du très court terme. Ça ne se joue pas en faisant semblant de dire qu'il n'y a pas de problème. Ça se joue pas quand brutalement il y a des pluies qui tombent alors qu'on a eu des années de sécheresse en disant ça y est, il y a plus de problème. Donc on est obligé d'être intelligent. Et donc c'est ce que j'ai vu. Et ce qui m'a intéressé, c'est que à la fois dans le monde universitaire, et ça c'était à Brisbane, à l'université de Queensland, un institut formidable de Global Change ou à Griffith où ils sont vraiment très très forts. Et un peu partout dans le monde universitaire, on affine un peu les solutions. Et puis dans l'administration, c'est-à-dire tous ceux qui gèrent le bassin de la Murray-Darling, qu'on a vu notamment à l'endroit où c'est un des plus cruciaux, c'est-à-dire en aval, comme toujours, puisque en aval, on a la conséquence de tout ce qu'on a décidé en amont. J'ai vu le Premier ministre de l'Australie du Sud, que j'avais d'ailleurs rencontré à Lyon à l'occasion de la COP des territoires, et puis j'ai vu le ministre de l'eau et puis tous ces gens qui se battent pour essayer de d'avoir une vision commune de l'eau, parce que l'eau est normalement une école du partage, autrement c'est la guerre.
Est-ce que c'est vrai à travers la planète entière ? Vous voyagez à travers le monde entier, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Australie, c'est des solutions qui peuvent aider peut-être d'autres pays comme le Bangladesh ou l'Afrique peut-être, ou des solutions doivent être propres ?
Alors, ce qui me frappe, d'abord, chaque pays doit avoir sa solution, puisque vraiment, les situations des cours d'eau sont très très différentes à tous les points de vue d'un pays à un autre, mais ce qui me frappe, c'est que tous les organismes que j'ai rencontrés en Australie sont appelés en consultation dans le monde entier. Ils sont appelés en consultation en Chine, ils sont appelés en consultation au Mexique, ils sont appelés en consultation évidemment au Bangladesh, en Inde, un peu partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que justement, ils ont mis en place des méthodes qui sont très très riches, très très à la fois techniquement évidemment irréprochables, mais en même temps du rapport avec la population, de l'acceptabilité et notamment de l'acceptabilité du partage. Donc c'est ça qui me frappe beaucoup. Et je me rends bientôt en Californie, qui a à peu près les mêmes difficultés, sauf que la Californie est dans le déni. Donc la Californie croit qu'elle va s'en tirer sans rien changer. Et la Californie a tort. Et je crois que la Californie ferait bien de prendre exemple sur les procédures qui sont à l'œuvre ici en Australie. Donc c'est ça qui est intéressant quand on a cette possibilité d'aller dans le monde entier, c'est qu'on compare. Et on voit les pays qui... Vous savez, c'est jamais une bonne solution de jouer l'autruche.
C'est pas faux. Vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été écrivain, vous êtes académicien, vous avez été romancier, vous avez écrit des contes et aujourd'hui, enfin, économiste à la base. Aujourd'hui, vous vivez vos rêves. Pourquoi ce combat de l'eau après le combat sur le coton? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une idée de la mondialisation derrière?
Oui, mais l'eau, c'est la première des matières premières. Moi, j'ai été économiste des matières premières. Donc j'ai travaillé sur le charbon, sur l'acier, sur le blé. Mais l'eau, c'est la première des matières premières. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de mine, puisque vous pouvez pas dégager le minerai de la gangue, vous n'avez pas d'agriculture et vous n'avez pas d'être humain, puisque à 80% nous sommes faits d'eau. Donc l'eau, d'abord, c'est la première des matières premières. Et ensuite, c'est un formidable miroir de nos sociétés. Et moi, je dis tout le temps, dites-moi comment on produit l'eau, à quel prix on paye, à qui on fait payer, quel prix, etc. Et je vous dirai à quelle civilisation vous appartenez. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça que partout dans le monde où les gens sont responsables en matière d'eau, les questions techniques existent, bien sûr, on veut les régler au mieux, mais la question derrière, c'est la question de la société. Donc les sciences humaines sont convoquées. Donc la sociologie est convoquée, l'histoire des religions. Prenez un exemple. L'eau, partout dans le monde, c'est la pureté. C'est le symbole de la pureté. Sauf que l'eau accueille les larves des moustiques. Et plus vous développez l'eau, plus vous aurez des moustiques, plus vous aurez des maladies, et plus la mort va rôder. Moi, j'ai vu ça au Vietnam, où celui, Yersin, qui a découvert le virus de la peste, le bacille de la peste, eh bien, on l'honore comme une divinité. Et en face de Yersin, on met des coupelles d'eau avec des bâtonnets d'encens. Et ces coupelles d'eau sont pleines de larves de moustiques, donc des vecteurs de mort, alors que lui a fait avancer la vie. Donc c'est ce genre de questions. Et dans le club que nous sommes en train de former, où il y a des gens qui sont des spécialistes, des gestionnaires de fleuves du monde entier, il y a des anthropologues, il y a des gens qui voient au fond c'est quoi l'eau pour quelqu'un, c'est quoi la Murray pour les populations, c'est quoi la Darling pour les populations, c'est quoi le Niger, c'est quoi le Parana, c'est quoi le Saint-Laurent. Donc, c'est pas uniquement technique. Encore une fois, la technique, c'est la moindre des choses. Il faut aller au-delà. C'est pour ça que j'aime bien. Ma première formation, c'est une formation de philosophe. Et avec l'eau, je retrouve cette philosophie pratique que j'aime.
D'accord. Vous allez faire quelques recherches sur le Zika. Vous partez pour parler un peu du Zika. On est à l'aube d'un fléau. On en parle beaucoup. Vous arrivez à rationaliser ça un peu dans votre tête ou pas?
Il n'y a pas seulement le Zika. C'est que, vous savez, il y avait beaucoup de maladies qui émergeaient et puis qui n'étaient pas transmises puisqu'il n'y avait pas de relation entre les êtres humains. Il y avait des maladies au milieu de la forêt et puis qui émergeaient, il y avait quelques morts et puis personne n'en entendait parler. Maintenant, nous sommes en contact. Donc, étant en contact, on est en contagion. Et donc, étant en contagion, évidemment, il y a des risques. Mais en même temps, il y a des réponses puisque les savoirs sont aussi en communication. Donc, c'est ça, ce monde. C'est pas tout gagnant, tout perdant. C'est que c'est un monde plus risqué. C'est un monde plus relié, étymologiquement religieux, c'est-à-dire plus relié. Et c'est ce monde-là dans lequel nous vivons. Donc il faut, encore une fois, pas jouer l'autruche et pas faire semblant qu'il faut rien changer. C'est pas vrai. Le sida est arrivé parce que on était dans les forêts. Le Zika a commencé dans une forêt en Ouganda. Et donc, comme on est en communication, bah, le bien communique et le mal communique.
J'ai une toute dernière question. Vous parlez beaucoup de l'eau, les océans. Les océans sont submergés de plastique dans certains endroits. Est-ce que le plastique, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir? Quand on réfléchit aujourd'hui que du plastique, ça met 300, 400 ans à être détruit, mais que l'œuvre industrielle du plastique, ça a 100, une centaine d'années, chaque molécule de plastique qui a été construite sur cette planète depuis le début est encore sur cette planète. Ça vous fait réfléchir, ça, ou pas?
Ben, ça me fait pas seulement réfléchir, ça me fait agir. Et j'ai accepté d'être actionnaire d'une société qui s'appelle Carbios, qui essaye de trouver le recyclage du plastique, pas du tout de manière traditionnelle, c'est-à-dire en broyant le plastique avec des lanières qui peuvent s'infiltrer jusque dans la nappe phréatique et ou alors dans la mer et être dévorées par les poissons, avec des tas d'ennuis de toutes sortes, non par des procédures naturelles, c'est-à-dire des cocktails enzymatiques. C'est-à-dire, moi je suis peut-être intellectuel au sens où j'ai fait des études, encore une fois, de sciences humaines, de philo, etc. Mais enfin, j'aime bien trouver des solutions. Donc, et là, il y a des solutions. Et c'est un monde dangereux, mais un monde plus dangereux que jamais, mais un monde où il y a plus de solutions que jamais. Donc, je suis optimiste et par tempérament et par réalisme aussi, et par morale, mais sans être complètement naïf. Donc, la question, je suis navigateur, donc imaginez qu'il y a une sorte de continents flottants comme ça au milieu de chacun des océans avec le jeu des courants, évidemment ça me dégoûte. Et ça serait facile de dire qu'on arrête le plastique, et avec des mécanismes très simples. Si vous faites payer un minimum, vous avez plus de plastique, de la même manière que si vous avez un prix du carbone, vous accélérez la métamorphose nécessaire. On ira vers ces métamorphoses là donc gagnons du temps. Parce qu'autrement, on est en train quand même de léguer à nos enfants une planète qui n'est pas formidable.
Eric Corcenin, merci.
Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On a le plaisir d'avoir Robert Pledge de la dotation Catherine Leroy qui va nous parler de cette photojournaliste et dont les photographies sont exposées au Ballarat International Photo Biennale ici en Australie jusqu'au 19 octobre. Robert Pledge, bonjour et bienvenue.
Bonjour, je suis ravi d'être avec vous de si loin d'ailleurs, de très loin même.
Et on va parler de cette exposition de photographie ici en Australie qui s'appelle Catherine Leroy, One Way Ticket to Vietnam 1966-1968. D'abord, peut-être parlez-nous de Catherine Leroy.
Oui, l'exposition porte bien ce titre, One Way Ticket to Vietnam, qui est celui du livre qui sort d'ailleurs prochainement. Et qui existe en une version anglaise aussi, One Way Ticket to Vietnam. Donc, Catherine Leroy est un personnage un petit peu, j'allais dire, à la fois mythique et oublié. Elle est quelqu'un qui a eu une reconnaissance certainement dans des milieux professionnels parce qu'elle était la seule photographe de guerre, de combat, ce que vous voulez, au Vietnam dans les années 60, dans les années américaines de la guerre les plus américaines, c'était 66, 67, 68, les plus intenses. Il y avait nombreux journalistes, beaucoup de photographes également, de toutes nationalités, mais pas de femmes. Elle était la seule. Il y avait bien une femme qui l'avait précédée, une américaine, Dickie Chappelle, qui a été tuée en novembre 65, donc juste 4 mois avant l'arrivée de Catherine Leroy, qui ne connaissait d'ailleurs pas du tout ce photographe tout à fait remarquable. Donc, elle a été la seule pendant ces 3 années-là, et absolument acharnée. C'est une jeune Française qui venait d'un milieu plutôt conservateur, traditionnel, très assez religieux, etc., et qui était un peu en rébellion contre l'environnement dans lequel elle vivait, et qui, en tous les cas, était destinée au départ à une carrière musicale de pianiste, de musique classique. Mais elle a bifurqué sur le jazz et puis sur l'Amérique et puis finalement sur le Vietnam, qui était l'événement le plus important sur le plan mondial, international à cette époque-là. Un conflit évidemment dans le cadre de cette guerre froide qui était chaude au Vietnam, bien sûr, mais entre le bloc des communistes et le bloc des capitalistes, et voilà. Et donc, elle s'est plongée là-dedans parce qu'elle était curieuse de connaître ce qui se passait sur le terrain.
Et donc, comme les GIs qui étaient au Vietnam, elle avait presque le même âge qu'eux.
Alors, ça, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, et souvent, d'ailleurs, un malentendu, parce que beaucoup de gens croyaient qu'elle était, comme ça, elle défendait la position américaine dans la guerre, elle soutenait le projet, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ce n'est pas vraiment ça du tout. Ce qui l'a vraiment marqué, c'est que quand elle a débarqué, elle s'est rendue compte que ces soldats avec qui elle partait en opération quasiment toutes les semaines, elle est le seul journaliste, d'ailleurs, de la presse écrite ou photographique, etc., qui passait autant de temps en opération militaire au Vietnam pendant ces trois années-là, ces trois années très intenses. Et Michel Ray en parle d'ailleurs dans son livre. Donc, elle passait un temps fou, et donc elle a bien connu ces soldats. Et ces soldats étaient des appelés, pour la plupart. Ils étaient appelés, ils n'étaient pas professionnels. L'encadrement l'était en partie, mais c'était des jeunes qui venaient de toutes les régions des États-Unis et qui avaient exactement le même âge qu'elle, 21 ans. Elle avait 21 ans quand elle a débarqué, elle avait 23 ans quand elle a quitté le Vietnam, et ça, c'était l'âge moyen des soldats américains qui se trouvaient là. Et je crois que c'est ça qui l'a vraiment marqué. D'abord, elle s'est identifiée, elle les comprenait, elle aimait les mêmes musiques, elle s'intéressait aux mêmes choses. C'était l'époque où, évidemment, l'Amérique était à 20 ans après la fin de la guerre, ou 15 ans après la fin de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique était en vogue, naturellement, pour de tas de raisons. Mais elle a compris qu'il y avait un phénomène de génération là. Alors, c'est pas tant qu'elle s'intéressait strictement à la guerre, elle s'intéressait bien sûr aussi aux victimes de la guerre, aux enfants, aux femmes, aux mères, etc., à ceux qui étaient tués de l'autre côté, l'ennemi ou les suspects de complicité avec l'ennemi des Américains. Mais c'était pas ça. C'était cette question de génération à laquelle elle appartenait, quoi. C'était, en fait, les baby boomers, si on veut.
Et donc, elle est partie au Vietnam avec un one-way ticket, comme on dit, et on lui offrait $15 la photo, et elle a signé le contrat. C'est ça?
Oui, alors, elle n'avait même pas vraiment de contrat. Il y avait un contrat oral entre elle et les agences, verbales, et les agences filières avec lesquelles elle travaillait, UPI, mais principalement Associated Press, AP, la plus grande de toutes, avec qui elle avait une relation forte au cours de la première année, la première moitié de son séjour, notamment parce qu'il y avait un rédacteur en chef qui était photographe lui-même, un Allemand, Horst Fass, qui était très protecteur de ces photographes, et qui a été totalement fasciné par le personnage de Catherine Leroy, et lui a donné une chance, la seule femme, de pouvoir travailler pour cette association, pour la Société de Presse. Et c'est comme ça qu'elle est partie, mais elle venait, voilà, c'est une aventure, elle est partie. Elle serait partie plus tôt même si elle avait pu obtenir un passeport plus tôt qu'elle ne l'a pu, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans. À l'époque, on ne pouvait obtenir de passeport qu'avec l'autorisation parentale à cette époque-là, ce qui fait qu'elle a patiemment attendu d'avoir 21 ans. Elle a économisé des sous, elle était déterminée. Elle avait abandonné le projet d'une carrière musicale classique et était totalement déterminée de se rendre au Vietnam parce qu'elle était fascinée par le fait que c'était d'une part l'événement le plus important qui existait, mais aussi parce qu'il y avait une relation aussi avec la France. Le Vietnam, c'était l'ancienne Indochine française, oui. Et qui avait évidemment, quand elle était jeune, dans les années 50, c'était la guerre franco-indochinoise et Dien Bien Phu en 1954. Donc c'est quelque chose qui avait une résonance chez elle. Et elle était curieuse de comprendre ce qui se passait dans ce pays et pourquoi de l'Indochine c'est devenu le Vietnam et pourquoi c'est devenu quelque chose d'aussi significatif. Elle était simplement curieuse et elle voulait être photographe de guerre, couvrir cette guerre.
Peut-on parler de la photographie qui est entrée dans l'histoire, la photographie où elle a capturé le visage d'un Marine qui tient dans ses bras un camarade mort, je crois que c'était en 1967, sur la colline 881
oui. C'est ça, exact. Alors, d'ailleurs, précision aussi, c'est que le personnage que l'on voit avec un regard très angoissé qui essaye d'apporter secours à Marine tué, lui-même n'est pas Marine. Les Marines n'avaient pas de personnel médical. C'était des gens de la marine, mais pas des marines, de la marine, la Navy, si on veut plus être précis, qui étaient les infirmiers des marines. Et donc, ça, évidemment, ça, il y a une confusion. Et elle était au pied de la colline 880 quand les premiers assauts ont eu lieu, extrêmement difficiles, dans un terrain terrible, d'abord en pente et qui avait été largement bombardé et qui était étouffé par les broussailles et les branchages de toutes sortes. Et quand elle a vu ce marin aller au secours du marine, elle l'a suivi, c'est-à-dire elle a crawlé derrière lui, lui-même a crawlé pour grimper la colline, la pente vers le blessé, qui en fait était mortellement blessé, il n'a pas survécu, et elle était à quelques pas derrière lui, présente dans la broussaille parce que ça canardait de côté. Et elle a fait une extraordinaire série de 8 images, dont une est perdue d'ailleurs, le négatif est perdu, et 5 de ces images sont d'ailleurs dans l'exposition elle-même à Ballarat, bien sûr. Et c'est un moment extrêmement fort, d'une part parce que là, encore une fois, on comprend ce marine, il avait cet infirmier, il avait 19 ans. Et celui qui a été tué en avait 20 ou 21 peut-être. C'est-à-dire, encore une fois, c'était des gens de sa génération. Et je crois qu'avec les années qui passaient, les mois qui passaient, elle s'est rendue compte du gâchis terrible que représentait ce conflit pour cette génération. Et que c'était des morts certainement inutiles des soldats appelés qui ne savaient pas très bien en fait pourquoi ils étaient là, mais qui faisaient preuve d'un courage et souvent d'un héroïsme étonnant compte tenu des circonstances, parce que l'ennemi, leur ennemi, était un ennemi invisible. Oui. Jamais ils ne voyaient de soldats de l'autre côté. C'était quelque chose d'hallucinant et qui crée évidemment énormément d'anxiété. Et même avec tous les hélicoptères du monde et tout l'équipement militaire, ça a été pour l'armée américaine un combat extrêmement difficile. L'ennemi était invisible.
Tu es né avant l'été, à la toute fin du printemps. Mes jambes presque dorées, nous avions eu un beau printemps. Tu es né avant l'été, il restait encore du vent. En quittant la maternité, j'ai trouvé Paris trop bruyant. La saison des pieds dans l'eau, de l'indice 20, 30 ou 0. Des moustiques tigres, des panachés, des cigales et des peaux bronzées. La saison des tomates mozza, des kilos en trop, des chipolatas, du rosé bien frais et des premières fois.
Mais Sabina Tobiana en ce dimanche sur Radio SBS.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nous sommes en ligne avec Sophie Leterme, professeure d'océanographie à l'Université Flinders en Australie-Méridionale. Bonjour professeur et bienvenue sur SBS en français.
Bonjour Monsieur Duquet.
Et aujourd'hui, on va parler de ces algues toxiques qui envahissent les eaux au large de l'Australie-Méridionale. Vous pouvez nous en dire plus, car il y a des conséquences dévastatrices pour la vie marine.
Oui, alors en effet, en ce moment, on est en train d'observer une prolifération de micro-algues nuisibles dans les eaux de l'Australie-Méridionale. Ces algues sont des micro-algues que l'on trouve partout dans le monde et qui ont trouvé des conditions propices à leur prolifération depuis le mois de février. Donc, ça fait 6 mois que ce bloom a commencé.
Et donc, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai lu, ces algues affectent les pêcheries de l'État et font craindre de graves conséquences économiques à long terme pour l'Australie-Méridionale.
Oui, tout à fait. Donc, on a observé qu'en effet, par exemple, les pêcheries et les aquacultures, les pêcheries et les activités d'aquaculture comme celles reliées à l'ostréiculture ont été réduites et plusieurs fermes ostréicoles, ont été fermées et ne peuvent pas vendre leurs produits sur le marché.
Et ces algues endommagent les branchies des poissons et les poissons soit peuvent mourir ou meurent tout simplement par noyade, d'après ce que j'ai lu.
Alors, c'est assez compliqué de comprendre exactement ce qui se passe dans nos eaux en ce moment, car je pense que les efforts de recherche sont seulement en train de commencer maintenant. Et il y a des rapports qui ont été faits sur certains animaux comme les requins, les dauphins qui ont péri sur nos côtes. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment détermination précise sur l'effet que l'algue a pu avoir sur ces organismes. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en effet, ce groupe d'algues, donc qui fait partie de la famille des Karenia, qui sont des dinoflagellés, produisent des toxines qui, en effet, peuvent avoir énormément de conséquences sur la vie des animaux, mais aussi sur la santé humaine. Je ne suis pas au courant de conclusions qui ont été produites par rapport au bloom qu'on est en train de vivre ici en Australie-Méridionale. Mais je suis sûre qu'avec les efforts de recherche qui vont être faits, on en saura plus bientôt.
Et pourquoi ces algues ont atteint une taille aussi massive? D'après ce que j'ai lu, elles s'étendent sur plus de 5000 km², soit oui, près de la taille de l'île de Kangourou, près de chez vous.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un phénomène assez commun avec les efflorescences de micro-algues. Ces micro-algues sont présentes dans l'environnement partout dans le monde à chaque instant. Mais elles sont présentes dans des abondances relatives qui vont changer en fonction des apports en sels nutritifs, en fonction de la température de l'eau et aussi en fonction de la lumière. Et en fait, il suffit qu'il y ait un mélange propice à un certain groupe de micro-algues pour que justement ces efflorescences se produisent et qu'on observe des proliférations massives de ces algues. Alors, les proliférations massives d'algues, c'est quelque chose qu'on observe de façon saisonnière, un peu comme on observe subitement au printemps les feuilles sur un arbre qui vont commencer à pousser avec les cycles saisonniers. Mais dans ce cas-ci, c'est une algue qui est nuisible et c'est pour ça qu'il y a autant d'attention qui est portée à cette algue. C'est aussi une efflorescence qui est très longue. 6 mois, c'est pas commun pour une algue de dominer la communauté des micro-algues dans un environnement pour aussi longtemps. Donc ça veut dire que les conditions ont été propices pendant pendant tout ce temps-là. Et malheureusement, ça n'a pas l'air de se calmer. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup d'algues sur nos côtes.
Et d'après vous, est-ce qu'il y a des remèdes?
Alors malheureusement, alors si nous étions au bord d'un lac ou au bord d'une rivière, les remèdes sont beaucoup plus faciles à contrôler. Lorsqu'on est comme ça en domaine côtier au bord de l'océan, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour contrôler une efflorescence de cette taille une fois qu'elle a commencé.
Et quel est l'impact des liens humains avec ce phénomène de voir des animaux morts sur les plages de South Australia?
Alors, évidemment, c'est très triste de voir cette quantité massive de poissons, de dauphins, de requins, d'hippocampes qu'on retrouve morts sur les plages. Ce qui se passe souvent avec ces efflorescences d'algues, qu'elles soient nuisibles ou pas, quand il y a un bloom comme ça qui est si gros, les algues vont consommer énormément d'oxygène dans l'eau. Et en fonction, donc ce n'est pas seulement leur capacité à produire des toxines qui a un effet négatif sur l'environnement, c'est aussi le fait qu'il n'y aura plus assez d'oxygène pour que des organismes plus gros comme les poissons puissent en fait survivre dans ces eaux-là. Donc, soit ils ont la chance de pouvoir s'échapper assez vite, ou alors ils sont pris dans le bloom et malheureusement, ils meurent.
Et d'après les nouvelles sur ABC, hier, le gouvernement de l'État a fermé l'une des plus grandes régions ostréicoles chez vous. Et puis, oui. Il y a aussi une fermeture préventive sur le port de Franklin à Cowell, d'après ce que j'ai lu, et aussi l'impact de ces algues sur les cuttlefish du golfe de Spencer.
Exactement. Malheureusement, en effet, le bloom n'est pas confiné juste au golfe de Saint-Vincent, mais aussi il est présent sur les côtes du golfe de Spencer, où c'est la période de reproduction des cuttlefish. On ne sait pas encore quelles conséquences ça va avoir sur ces populations de cuttlefish, car le bloom que l'on voit sur les images satellitaires, pour l'instant, est confiné seulement à certaines parties des côtes du golfe Spencer. Le golfe Spencer est plus large que le golfe de Saint-Vincent. Donc on attend, on observe pour voir ce qui est en train de se dérouler.
Je profite de l'occasion de votre présence sur les ondes de SBS French pour parler du film Les algues vertes de Pierre Jolivet.
Oui, alors c'est assez intéressant d'avoir cette opportunité de parler des algues vertes en Bretagne qui sont un problème depuis des décennies. Et ça me permet de faire un peu un parallèle avec ce que l'on observe dans une des lagunes ici en Australie-Méridionale, qui s'appelle le Coorong, où nous avons aussi justement des efflorescences d'algues vertes qui ont certaines similarités avec ce qu'on observe en Bretagne et qui malheureusement sont très néfastes à l'environnement du Coorong.
Professeur Le Terme, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS. Et à une prochaine fois. Merci.
Avec plaisir, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Come back to you.
C'était le jazz de Pink Martini. Aspetami, c'est la chanson en ce dimanche sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.au/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.